pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Mercredi 11 octobre, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son délibéré dans l'affaire dite de la voiture de police incendiée. Il a prononcé des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme contre les 7 prévenus, dont le plus fameux, Antonin Bernanos, a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Les faits désormais bien connus remontent au 18 mai 2016. Nous sommes en plein mouvement social contre la loi El Khomri. La place de la République est occupée depuis un mois et demi par le mouvement Nuit Debout. La répression policière s'intensifie, dénoncée entre autres par Amnesty International, qui comptera plus de 1000 blessés pendant le mouvement. Le 18 mai, le syndicat policier Alliance organise un rassemblement contre la haine anti-flic, place de la République, auquel assistent entre autres Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard. Une contre-manifestation organisée par Urgence Notre Police Assassine est interdite au dernier moment. Un cortège sauvage de militants antifascistes s'engage alors quai de Valmy et attaque une voiture de police qui passait là par hasard. Antonin Bernanos et les 6 autres ont été jugés coupables d'avoir participé à cette attaque. L'accusation reposait en grande partie sur une vidéo prise par un youtubeur qui se trouvait sur les lieux et dont les images ont fait le tour de la planète. Une grande partie du procès aura d'ailleurs consisté à projeter ces images sur un grand écran et à comparer les détails vestimentaires des assaillants, de la couleur du caleçon jusqu'à la forme du téléphone portable dans la poche, avec d'autres images prises à d'autres moments de l'attaque. L'utilisation abusive d'images au cours de cette audience, sans autre discours ou preuve, a d'ailleurs été dénoncée dans une tribune signée par de nombreux professionnels de l'image et publiée par le quotidien Libération. Sur la vidéo d'une grande violence, il faut bien dire, on voit d'abord un premier militant cagoulé qui frappe le chauffeur de la voiture à travers la vitre. Un second, qu'on retrouve pendant toute la durée de l'attaque, est muni d'une tige bleue avec laquelle il frappe les vitres, la carrosserie, puis le policier. Il a reconnu les faits et s'en est excusé. Le premier poursuit ensuite en défonçant le pare-brise arrière de la voiture avec un poteau de signalisation arraché. Un troisième lance dans la foulée un fumigène à l'intérieur de la voiture. Le policier sort et répond au coup du second avec des mouvements d'arts martiaux qui lui vaudront le surnom de Kung Fu Cop. Il se trouve qu'Olivier Minot, notre reporter, était sur les lieux avec son AGRA au moment des faits. Il en raconte une version, vue de l'intérieur, et donne la parole au principal inculpé, Antonin Bernanos, comme on l'entend jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, la place de la République est complètement bouclée.
Le 18 mai 2016, je suis aux abords de la place de la République.
Ouais, donc j'expliquais. Donc on est place de la République, il y a une manif de policiers qui est prévue à midi.
Alors que depuis plus d'un mois, je venais quasiment tous les jours pour faire des émissions autour de Nuit Debout. Je suis comme tout le monde, manifestant, riverain, touriste, écarté de la place. Et à un moment, dans un mouvement de la police, je me retrouve nassé.
Une vingtaine, si je ne m'abuse.
Nassé, ça veut dire que je suis enfermé avec une vingtaine d'autres personnes par un peloton de garde mobile. Une sorte de garde à vue à ciel ouvert, dans un petit périmètre, sur le trottoir du boulevard Saint-Martin.
Partir, s'il vous plaît, messieurs, là. Fais rien, je demande juste à rentrer chez nous.
On y restera pendant 2 heures.
Vous pouvez nous laisser partir au lieu de nous pousser.
Et soudain, on est libéré. Les policiers sont appelés en renfort sur le quai de Valmy parce qu'une voiture de police est en feu.
J'étais là-bas. L'idée, c'était vraiment de perturber cet événement et l'appel à dénoncer la haine anti-flic était complètement absurde parce que c'était des bourreaux qui s'autoproclamaient victimes du jour au lendemain. J'ai eu pas mal de potes qui ont eu des blessures plus ou moins graves. Crâne ouvert, des grosses plaies, un pote qui a eu tout le mollet à moitié arraché, des bras cassés, des tibias pétés aussi. Il y a un peu d'envie de revanche aussi, de haine. Et il y a une sorte d'appel à partir en manif sauvage, c'est plutôt festif, c'est plutôt joyeux. Et ça va jusqu'au quai. Et voilà, après, assez vite, il y a Il y a une voiture qui, de flic qui passe et arrive ce qui est arrivé, quoi. Je vois la voiture et tout ça, les gens qui commencent à aller vers la voiture, mais moi j'avance. C'est pas que ça me déplaît ou quoi, mais genre j'avais pas envie de moi participer à ça et c'est pas mes. Enfin, genre c'est spontanément, c'est pas le truc que je fais. Donc du coup j'avance et après je me retourne et je vois une espèce de fumée noire. Et c'est, sur le coup ça paraît vraiment pas. Enfin, on s'attend pas à ce qu'il y ait des conséquences comme ça. Ça paraît pas être un événement si énorme qui va jouer sur le destin quand même de gens qui ont à peine 20 ans. C'est pas incroyable hein, ce qui se passe. Il y a un type qui se fait attaquer avec une espèce de tige en plastique. Enfin, une vitre cassée et un fumier lancé quand les flics sont déjà dehors. Il y a pas, enfin, c'est pas un événement où il y a une attaque, un vrai lynchage en fait. C'est...
Quand j'ai vu la scène à la télé, j'ai été comme tout un chacun, je pense, dans cette dimension spectaculaire de la scène. Quoi. Quand on voit ça, on se dit ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de violence et tout qui choque quoi. Et après, spectaculaire, c'est aussi tout le côté monté quoi. C'est-à-dire que tout le côté de la vidéo en boucle avec des scènes bien coupées, isolées du reste de tout ce qui se passe à côté. Oui, c'est aussi une forme de spectacle quoi. Mais ouais, comme tout le monde, j'ai été pris dans ce truc-là au début.
Lui, c'est Antonin. Il a 23 ans, il est étudiant en sociologie et il est un des 9 accusés dans l'attaque de la voiture de police.
C'est vrai ?
Il a toujours nié les faits. Il a déjà fait 10 mois de préventive et quand je le rencontre, il est en liberté conditionnelle.
5 ans, dont un avec sursis. En gros, il demande 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt.
Nous sommes en plein milieu du procès. Le délibéré n'est pas encore connu, mais le procureur vient de requérir des peines lourdes pour la plupart des inculpés.
C'est sûr que ça fait un coup au moral pour moi, pour mes proches, pour ma famille et mes amis de savoir que la réquisition principale, c'est déjà de la peine de prison ferme, quoi. Pour les premières personnes qui ont été arrêtées, parce que les autres c'est différent, mais on va dire qu'on appartient à une tradition politique qui était surveillée. Quoi. Ça c'était une réalité, notamment par un service de renseignement à Paris qui s'appelle la DRPP, la Direction des renseignements de la préfecture de police de Paris. Et ce service va produire un renseignement, alors à la base un renseignement qui va permettre notre interpellation, disant que 4 personnes étaient dans un groupe auteur des faits. Et on va être 4 en fait à être arrêtés quelques heures après les faits, hein, vraiment quelques heures après les faits, sur la base de ce renseignement qui s'appuie sur des notes blanches. Les notes blanches, juste pour expliquer ce que c'est des notes qui sont produites par des services de police qui n'ont une existence légale que dans le cadre de l'état d'urgence en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes notes blanches qui avaient servi pour 3 des 4 premières personnes interpellées à nous interdire de manifestation en fait la veille, parce qu'on avait été interdit de manifestation initialement. Et qu'on avait fait lever en fait les interdictions de manifestation parce que les notes blanches étaient fausses. Et ces mêmes notes blanches qui pourtant avaient été fausses la veille, elles permettent notre interpellation. Et pendant 24 heures, on se retrouve en garde à vue. Et au bout de 24 heures, va apparaître un témoin anonyme qui va m'attribuer des violences très particulières en fait à l'intérieur de la, à l'intérieur de l'acte quoi. Qui va me désigner comme étant la personne qui jette le plot métallique qui permet l'intrusion du fumigène à l'intérieur de la voiture. Et à la fin de la garde à vue, on va passer devant la juge d'instruction. Et là, on va découvrir en fait que ce témoignage anonyme, c'est un témoignage d'un policier de la DRPP, en fait. Le même service qui avait produit les fausses notes blanches qui avaient permis de nous interdire de manifestation. Et le même service qui avait donné ce fameux renseignement dont on ne sait pas trop d'où il sort, qui avait permis notre interpellation.
Ce policier, c'est un espion.
C'est un agent infiltré dans les mouvements sociaux. Ouais. Pour dire, mais oui, on peut dire en quelque sorte un espion.
Lui, on l'a appelé dans la procédure 142, non ?
T-142, témoin 142. Quand j'étais en prison, on a fait une demande de confrontation pour être confronté à ce fameux témoin anonyme. Je n'ai pu le voir que derrière un écran, avec une voix modifiée et le visage caché. On a été confronté à une personne qui nous incriminait tous les quatre, mais qui, moi, m'incriminait tout particulièrement, et qui a refusé de répondre à quasiment l'intégralité de nos questions. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 3 des 4 premières personnes qui sont plus poursuivies pour les faits de violence. Il a été démontré qu'on n'était pas ensemble au moment des faits, que sur plusieurs photographies, on pouvait montrer qu'on ne formait pas un groupe, donc il était même possible qu'on ne se soit pas vu ce jour-là. Et bien qu'on ait démontré ça, en fait, le témoignage n'est plus valable pour 3 personnes, mais il reste valable pour moi. Comment c'est possible ?
Bonjour.
Dans cette affaire, Antonin est le seul protagoniste à bien vouloir me parler. Les policiers qui étaient dans la voiture, tout comme les autres prévenus, ont refusé les interviews. Parmi les 4 premiers interpellés, il y a aussi le frère d'Antonin, Angèle, qui sera incarcéré pendant 45 jours. Le fait qu'ils soient frères, qu'ils soient les arrière-petits-fils de l'écrivain Georges Bernanos, attire les projecteurs sur eux, mais aussi sur leurs parents. Yves et Geneviève.
Ici, dans notre salon.
Je les retrouve au matin du procès, au jardin du Luxembourg, avant d'aller suivre les audiences au tribunal.
Antonin était menotté en caleçon, en t-shirt.
Elle est fonctionnaire territoriale et lui est réalisateur de documentaires pour la télé.
Moi, je voudrais dire aussi une chose. Il y a eu cette soirée du 18 mai et il y a eu aussi le matin du 19 mai. Sur France Info, j'entends que mes enfants sont passibles des assises et de la perpétuité. Et ce jour-là, le monde s'est écroulé, oui, pour nous.
Quand je suis arrivée dans le bureau de l'avocate, d'abord, elle nous a demandé de couper nos téléphones, de ne plus parler, qu'on était sur écoute. Elle nous a donné toutes sortes de conseils de sécurité que j'avais jamais entendus de ma vie. Elle nous a fait poser nos téléphones en dehors de son bureau pour nous parler. Elle nous a montré toutes sortes de sites d'information, y compris des sites d'extrême droite, de policiers qui montraient déjà des photos d'Antonin dans d'autres manifestations et qui en appelaient à sa mort, qui en appelaient... qui disait « J'espère que ses parents vont bien chialer quand il sera en tôle ». Enfin, c'était immonde. Donc voilà, on est rentrés un peu abasourdis. On s'est retrouvés tout à coup, on ne savait plus si on devait se parler, si on devait répondre au téléphone. Des gens qui sonnaient à notre porte pour nous dire « Ouvrez-nous, on est de la presse, on voudrait vous parler », etc. C'est-à-dire que même au pied de chez nous, quoi, enfin à la porte de chez nous, on n'osait même plus avancer.
Il y avait aussi des filatures de policiers. C'était des gens avec des oreillettes très affairées et surtout très mal à l'aise quand on passait à côté d'eux. Donc effectivement, on a été mis sur écoute continuellement et on a découvert ce que c'était que la surveillance d'État. Alors on nous disait, des amis plutôt bien intentionnés nous disaient que c'était à la fois pour les besoins de l'enquête, mais c'était aussi pour nous protéger.
En écoutant Antonin et ses parents,
notamment des milieux d'extrême droite.
Avec toutes ces histoires de témoins anonymes, d'écoute, de filature, j'ai parfois l'impression d'être dans Rendez-vous avec X ou dans un mauvais film d'espionnage. Certains journalistes racontent même que les Bernanos sont fichés S. Ils représenteraient donc un danger pour l'État. Pour Arié Halimi, l'avocat qui défend Antonin, on contamine l'enceinte judiciaire avec de la politique. En gros, on voudrait condamner Antonin pour son militantisme.
Je rentre dans la politique par un mouvement social, en fait, et qui, à la base, est le mouvement des retraites. En 2010, ouais, à l'époque, je suis au lycée. Et moi, je vais beaucoup me mobiliser là-dedans. Pendant plusieurs blocus, donc moi j'ai fini par me faire envoyer, et je me suis retrouvé au lycée autogéré de Paris. Et là, en vivant cette expérience d'autogestion, je me suis aussi imprégné d'une certaine forme de façon de m'organiser, de façon de penser. Et là, je me suis engagé principalement dans la lutte antifasciste. J'y suis rentré un peu par nécessité, entre guillemets, dans la mesure où le lycée autogéré, il est situé dans le 15e, entouré à la fois de la fac d'Assas avec... un groupe qui s'appelle Le GUD, qui était présent à l'intérieur, un syndicat d'étudiants d'extrême droite qui avait également son bar associatif dans la rue de l'autre côté. Il y avait un local dans la rue parallèle, qui était le local des identitaires. De l'autre côté de la rue, quelques avenues plus loin, il y avait le local, en tant que tel, qui était le local de Troisième Voie, donc des skinheads néo-nazis parisiens. On va dire, pour eux, on était un peu le dernier bastion d'extrême gauche au sein de leur zone blanche et nationaliste, quoi. Même si on était des lycéens, même si eux c'était des gens plus âgés, il y avait régulièrement des jeunes qui étaient passés à tabac. Et nous on se mobilisait là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment on a décidé de rentrer en confrontation directe avec l'extrême droite et de plus se laisser faire. Nous on a une notion assez large de la défense, quoi. C'est-à-dire que si jamais ils étaient à côté en train de différer, on les dégageait, quoi. Et dans cette lutte antifasciste, on s'est aperçu que ceux qui étaient principalement concernés déjà par la lutte contre l'extrême droite, mais aussi par ce fascisme-là qui grandit au cœur de l'État, à travers les violences policières, c'était principalement les populations non blanches et précarisées, quoi. Parce qu'il y a toujours cette espèce de combinaison des deux qui n'est pas toujours réelle, mais qui existe. On le voit aujourd'hui, il y a des politiques ultra répressives sur les frontières qui font qu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui se noient en Méditerranée. Et parallèlement à ça, il y a des groupuscules d'extrême droite qui financent des bateaux pour aller empêcher des ONG de sauver ces personnes.
Alors, Antonin a été envoyé le 2 juin à Fleury. Pour moi, c'était une chanson de trust, hein, pour moi, Fleury Mérogis, que j'écoutais quand j'étais ado. Et mon contact avec la prison, ça a été d'abord d'arriver en courant, de déposer ses clés de voiture dans un petit casier à la maison des familles, de prendre sa carte d'identité, d'attendre très longtemps. On n'avait pas de permis de visite, donc on a eu le droit juste d'apporter un sac de linge. Et puis après, il faut passer au sas de surveillance. Et donc j'ai sonné au portique. J'ai sonné parce que mon soutien-gorge a des baleines, comme tous les soutiens-gorge de femmes. Il y a des femmes qui vous disent « Vite, vite, cours, cours à la maison des familles, enlève ton soutien-gorge, mets-le dans ton casier et reviens vite. » Donc j'ai trouvé un petit recoin, j'ai enlevé mon soutien-gorge, j'ai remis mon soutien-gorge dans le casier, il faut faire des codes, enfin on est en état de panique, et vous repartez en courant sans votre soutien-gorge, comme des tas de femmes. Et puis j'arrive, on me dit « c'est fermé, vous êtes arrivé trop tard, c'est fermé, vous ne pouvez plus déposer le linge. » Et j'ai croisé un des avocats que j'avais vu au tribunal qui me dit « Ah, bonjour madame, vous allez bien ?» Je dis « Ben non, je ne vais pas bien, je ne peux pas porter du linge pour mon fils qui, Angèle, lui, ça faisait déjà 10 jours qu'il était là-bas, qu'il n'avait pas de vêtements, qu'il n'avait rien. » J'ai dit « Mais vous le ressortez enfin, dans une semaine, quoi. Enfin, » il m'a dit « Non, ça va être beaucoup plus long. » Je lui dis « Mais je ne comprends pas pourquoi c'est plus long. Enfin, ils n'ont rien à faire là. » Et puis je suis repartie de Fleury.
Donc ça, c'est ce que vivent toutes les familles de détenus.
Yves, excuse-moi, mais il est 11h10, il faut qu'on aille faire la queue pour rentrer dans le tribunal. Là.
Bonjour. On est dans le bus pour le tribunal. Sans rentrer dans le détail des avocats, ça a eu un coût, j'imagine.
Oui,
oui ça a eu un coût certain, effectivement, ça se paye, la justice. Et ça a été un choc.
Au départ, ils avaient des tarifs de militants, entre guillemets. Et puis, quand c'est les parents qui se présentent, là, les tarifs ne sont plus les mêmes. Jamais de devis. On donne un chiffre comme ça, on dit OK. Et puis, le jour où vous recevez une facture, elle a pris 50% et vous ne savez pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai déjà dépensé près de 30 000 euros en avocat. Ouais. Et ce n'est pas terminé. Mais le peu d'argent que j'avais mis de côté pour les études de mes fils... Bah, tout y est passé pour l'instant. Et puis ils pensent qu'on a du fric. Bernanos, ils pensent qu'on a du fric. On a même eu un avocat qui pensait qu'on pourrait lui donner un manuscrit de Georges Bernanos, alors qu'on n'a aucun manuscrit. Tout est à la BNF.
On a véhiculé de nous une image de grand bourgeois que nous n'avons jamais été.
Mais on n'est pas non plus le profil habituel de leurs clients. Voilà. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'argent. Donc finalement, on en a nous toujours un peu plus qu'eux.
Justice. Au tribunal correctionnel de Paris, comme beaucoup de monde, je ne parviens pas à pénétrer dans la chambre d'audience. Elle est petite, et une fois que se sont engouffrés les prévenus, leurs familles et les journalistes avec carte de presse, il n'y a plus de place. Les militants venus en soutien ne comprennent pas pourquoi les journalistes rentrent en priorité. L'ambiance est tendue dans la salle des pas perdus. Les prévenus refusent d'être filmés et les militants s'en prennent aux journalistes qui continuent de braquer leurs objectifs.
On veut pas que tu filmes.
Eh oh, ça suffit.
Non, mais il y a personne qui a envie d'être pris en photo. Pourquoi tu prends compte
de ton pas ici.
Voilà. Pas ici, toi, merde. Pas ta gueule, va pas ici. Il y a des gens qui ont été inculpés à cause d'une vidéo. Il y a des gens qui passent au tribunal à cause de tes vidéos de merde. Casse-toi.
Le monde déteste les journalistes.
C'est en effet sur une vidéo que repose une bonne partie de l'accusation. Une vidéo d'un youtubeur. Et chose incroyable, c'est que l'auteur de cette vidéo est là, au milieu de la foule de journalistes et de militants.
Moi c'est Stéphane, j'ai commencé dans les...
Je le rencontre dans la cour du palais de justice.
On va dire dans les grosses manifestations pro-palestiniennes en juillet 2014. Et donc grâce à votre travail, ça a été un nouveau essor pour ma chaîne YouTube. Voilà. Bon, ça me fait pas vivre, mais voilà, dès qu'il y a des événements comme on a vu par rapport à la voiture de police brûlée, c'est vrai que ça fait beaucoup de, ça crée beaucoup d'élan, ça a fait le tour du monde, le tour des télévisions. Je l'ai vendu pas mal de fois. Il y a même aujourd'hui encore qui veulent me l'acheter. J'ai dû me faire à peu près 2000 euros dessus. Ça, et c'est vrai que si j'étais le seul dans cet angle-là, il y avait personne à côté de moi, et c'est à cause de ça, je pense que ça a fait ça a beaucoup tourné. Mais le lendemain, je me suis rendu à la manifestation du 19 mai. Et c'est là que je me suis interpellé par la police. Ils regardent sans autorisation ma caméra, ils regardent tous mes fichiers. Et là, ils voient qu'il y a les fichiers, vidéo de la voiture de police brûlée. Ils ont saisi tout le matériel vidéo qui me servait à faire mes reportages.
Stéphane me dit qu'il a été condamné à un an de prison sans mandat de dépôt pour diffusion d'images violentes. Mais il continue de les diffuser sur son compte YouTube et de les vendre à la presse qui les passe en boucle à chaque nouvel article.
Après, pour moi, c'est pas vraiment une honte parce que c'est pas... C'était pas mon but de toute façon de chercher l'argent dedans, donc je l'ai fait pour ma passion, pour mon plaisir.
Nous, le lynchage médiatique, on a été les seuls à le subir dans cette affaire. C'est-à-dire que les journalistes en bas de chez nous, les photos de nous qui sont diffusées sur Internet, les photos du dossier qui sont diffusées à la télévision par des journaux de 20h, des souvenirs personnels, les noms de mes proches, le nom de ma copine ou le nom d'autres personnes que je connais qui sont balancées en pâture sur des médias gratuitement, ce lynchage-là, nous, on est les seuls à l'avoir subi, moi et Angèle. Aussi parce que nos parents ont pris la parole, comme on était les deux seuls incarcérés, et aussi parce que moi, personnellement, j'ai décidé aussi de me mettre en avant dans certains de mes écrits, dans certaines positions que j'ai prises, parce que, bon, il me semblait nécessaire aussi qu'on pose un visage sur des choses qu'on a tendance à mettre à distance. Par exemple, pour beaucoup de gens, le cortège de tête, c'est un cortège de personnes cagoulées, en noir, qui fait peur. Et pour moi, c'était aussi important... dans ma situation, de dire aux gens, bah non, regardez, on n'est pas que ça, quoi. Sous les cagoules, si vous voulez, il y a des gens, enfin, il y a aussi des gens qui parlent, il y a des gens qui font des choses. Dans le cortège de tête, on a eu certaines journées, comme le 14 juin, où j'étais incarcéré, mais qui ont été des journées importantes, parce que la composante du cortège de tête, c'était des milliers et des milliers de personnes. Il y avait des actions, certes, violentes, que moi j'appelle d'autodéfense populaire par ailleurs, mais c'était des actions qui étaient largement spontanées, menées par des centaines de personnes qui ne se connaissaient pas, et des gens qui l'étaient organisés et d'autres qui ne l'étaient pas. Et donc en ciblant des personnes particulières et en les mettant en avant, ça permet aussi d'essayer de les isoler du reste du mouvement, quoi. C'est pour ça que nous aussi, par la suite, on a essayé de travailler à replacer cette affaire pour ce qu'elle était, c'est-à-dire l'affaire du mouvement social dans son ensemble.
Les poursuites depuis 2 ans s'élèvent à 4000. Répression patronale, répression policière, répression judiciaire. Mais dans tous les cas, il s'agit bien de répression politique.
Le procès aura duré près d'une semaine et je ne pourrai pas rentrer une seule fois dans la chambre d'audience, trop pleine à craquer. Mais en dehors, devant le tribunal ou dans la salle des pas perdus, je rencontre effectivement les différentes composantes de l'ensemble du mouvement social. Des gens de la CGT, du NPA, des étudiants, des mouvements anarchistes, des anciens Nuit Debout, Frédéric Lordon, des groupes antifascistes, des militants des quartiers populaires, la famille d'Adama Traoré.
Je suis là parce que je pense qu'il y a un mouvement très important qui se passe autour du procès.
Et aussi des intellectuels de gauche comme le philosophe et sociologue Geoffroy de la Gannerie.
On peut brûler des voitures si on a un objectif.
Ça, c'est une phrase de Bourdieu, elle s'adapterait à cette voiture brûlée ou pas?
Ben non, je crois pas du tout, justement. Moi, je considère que c'est un acte stupide et qui renvoie une conception de la politique assez naïve. Mais ça, c'est la perception froide, c'est la perception après. C'est-à-dire que si on avait été là, à ce moment-là, dans la conjoncture politique donnée, dans l'énervement, dans la colère, dans le sentiment d'étouffement, bah peut-être que, emporté par le mouvement, on aurait nous aussi pu produire un acte qui nous aurait amené à comparaître devant le tribunal correctionnel.
Il faut tous être là. Donc, liberté pour les 9 incriminés.
Vous avez reconnu avoir mis votre pull sur la bouche, Ed, dit le président Antonin Vernal. Tu te rends compte, putain?
Le délibéré est tombé mercredi.
Le témoignage constant et précis du policier sous X est corroboré.
Une fois de plus, je n'ai pas pu rentrer dans la chambre d'audience. Alors avec d'autres recalés, on suit le jugement sur les live tweets des journalistes qui sont à l'intérieur.
Le président compare l'agression d'un policier parce qu'il est policier à une personne morte parce qu'elle est morte.
Sur les 9 inculpés, 2 sont relaxés. Les autres se partagent 29 années de prison, dont 11 avec sursis.
Antonin Vernal, condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, pas de mandat de dépôt. C'est atroce.
Antonin, lui, écope de 5 ans ferme, dont 2 avec sursis.
Ça, l'absence de... Il dit ça. Il dit que ce sont des faits d'une extrême gravité et il y a un risque de réitération au vu de votre absence de regret. Mais on ne peut pas regretter quelque chose qu'on a fait.
Quand j'avais rencontré Antonin, bien avant le résultat, on avait parlé d'une éventuelle réincarcération.
Bon, ça me fait moins peur que ça a pu me le faire la première fois. Parce que j'ai déjà fait 10 mois en prison, donc c'est un monde qui m'est plus familier qu'il l'était il y a 16 mois. Maintenant, ouais, c'est sûr que me dire que là, je vais être arraché à ma vie, à ma famille, à ce que j'ai essayé de reconstruire depuis le 28 mars dernier, ouais, c'est assez inquiétant, quoi. Une journée standard, c'est 22 heures dans une cellule à 3 pour 2 personnes dans... une toute petite pièce assez sale avec une télé, avec des co-détenus qui n'ont pas forcément le même rythme que toi. Une télé qui fonctionne en permanence et avec 2 heures de promenade par jour, quoi. Donc 2 heures pendant lesquelles on peut tourner en rond dans une petite cour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'on sonne la cloche et que la journée reprenne exactement de la même façon. T'as pas de contact, t'as pas de lettres, t'as pas d'habits, t'as rien. C'est là, à ce moment-là aussi, que tu te rends compte que la prison, ça te punit pas que toi, quoi. C'est-à-dire que ça punit ta mère, ça punit ton père, ça punit ton frère, ça punit ta copine, ça punit tes amis, ça punit tes proches, ta famille, tes camarades, ça fait souffrir tout le monde autour de toi, quoi. Il y a tout ce côté douloureux dont on vient de parler, mais il y a aussi une expérience positive, c'est que j'avais une volonté de continuer ces luttes-là. J'avais une volonté aussi de le faire parce que je continuais mes études de sociologie à l'intérieur, que ça me donnait des armes pour comprendre le monde qui m'entourait, et aussi parce que j'étais confronté à un monde à l'intérieur duquel je m'apercevais qu'il y avait une multitude de petites résistances quotidiennes à travers des refus de remonter en promenade collective, des grèves, des sabotages dans les chaînes à l'atelier, des résistances un petit peu plus quotidiennes, de refus de parler avec l'administration, le fait de refuser de prendre à manger quand un détenu s'est suicidé en cellule. Et donc moi, ça a été aussi important pour moi parce que ça m'a permis de remettre cette question-là au cœur de mes questionnement militant et au cœur des luttes que j'ai envie de mener par la suite, parce que je pense que c'est quelque chose de primordial, quoi. Donc il y a eu ce côté négatif humain et destructeur aussi, et il y a eu aussi ce côté plus positif de perspective que j'ai réussi à me réapproprier.
Tu vas continuer à l'intérieur, quoi.
Je vais continuer à l'intérieur, j'espère ne pas y aller.
La bataille tout le temps.
Bah, pas la bataille tout le temps, mais en tout cas, quand on est attaqué, comme là on l'a été là-dedans, ouais, il faut pouvoir se défendre. Maintenant, tout n'est pas que combat, tout n'est pas que lutte. Il y a aussi une réalité, c'est que bon, enfin, ce qu'on traverse, ça nous endurcit, quoi. Et donc, oui, c'est sûr qu'on peut avoir l'impression qu'on est un peu dur, quoi. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters above you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you'd better stop swimming or you'll sink like a stone.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'affaire de la voiture incendiée, un reportage d'Olivier Minot réalisé par Cécile Lafont. J'ajoute qu'à la suite du délibéré, les parents d'Antonin Bernano se sont exprimés lors d'une conférence de presse. Ils ont notamment regretté que le doute n'ait pas pu profiter à l'accusé et que seul un faisceau d'indices ait fait office de preuve. Il est encore trop tôt aujourd'hui pour dire si les condamnés feront appel de la décision de la cour. Ils avaient mercredi 10 jours pour se prononcer. On ne sait pas non plus si Antonin sera à nouveau incarcéré ou si le jeu des remises et aménagements de peine lui permettra de ne pas retourner en prison. Merci à Antonin, à Yves, à Geneviève, à Stéphane, à Esta, à Geoffroy de la Gannerie, à Vanessa Codaccioni, à Pauline Picardat, Raphaël Kempf, Antoine Marette et à Leïla Djitli. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire.